Un responsable du Hezbollah a déclaré à l'AFP que le groupe avait informé les autorités libanaises qu'il rejetait le cessez-le-feu annoncé à l'issue des pourparlers entre Israël et le Liban qui s'était tenu à Washington. Justement, Meir Dahan, on était plutôt optimiste cette nuit après les annonces américaines.
Non, pas du tout, je n'étais pas optimiste du tout.
Ah ben voilà.
Vous savez, ça fait 40 ans qu'on subit cet civil accrochage au Liban. Je veux rappeler à nos audiences qu'il s'agit des Libanais, de prêtres libanais qui travaillent pour l'Iran et non pas pour leur propre pays, et qui travaillent une idéologie atroce qui a causé la mort de des milliers et des milliers de gens et qui a complètement détruit l'économie libanaise et l'État de Liban. Et entre autres a dérangé lourdement le nord d'Israël. Et donc, en aucun cas, j'étais optimiste. Je ne pensais pas pour une seconde que le Hezbollah, du coup, deviendra l'enfant du coin.
Alors, aujourd'hui, on a appris que des sirènes qui ont annoncé des tirs de roquettes en provenance du Liban ont retenti dans plusieurs localités situées près de Kiryat Shmona dans la bande de Galilée. Est-ce qu'on est de retour à ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce dernier mois ?
Ben, je sais pas, par contre. Tout d'abord, parce que le Hezbollah n'a plus les moyens de mener des attaques massives. C'est pourquoi ils ont retourné à leur habitude de guérilla, car aujourd'hui la chaîne de commandement de Hezbollah n'existe pas, et la pyramide n'existe plus. Donc ça fait qu'ils travaillent avec des petits groupes sans donner trop de renseignements l'un à l'autre, et ils utilisent des moyens pauvres mais malheureusement douloureux. Mais bon, ils sont complètement dans la guérilla, et c'est à ça qu'on fait face. C'est justement pourquoi l'armée est contrainte, de fait qu'on est limité, on a les bras attachés par rapport à nos envies d'éliminer ce phénomène.
Ouais, c'est vrai qu'on le ressent, hein. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait refusé hier soir de donner son feu vert à une large offensive terrestre au Liban. Il y a plusieurs ministres qui la demandent, notamment le ministre de la Défense Israël Katz et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Pour vous, Meir Dahan,
c'est surtout l'armée qui demande à prendre une décision, car il faut comprendre. Nous sommes une armée bien bâtie, bien structurée, et on fait face à des bandes de guérillas. Et la chose la plus grave qui peut arriver à une armée dans ces conditions, c'est de rester stagné à sa place. On devient des points de mire, on devient des targets, on devient très vulnérable. Et c'est tout ça qu'il ne faut pas faire. Alors soit on retourne en arrière, soit on attaque en avant massivement, mais rester sur place tel qu'on est, ça c'est pas possible. Et c'est là pourquoi l'armée exige une décision. Soit on bouge en arrière, soit on bouge en avant.
Et est-ce que, selon vous, bouger en arrière, ça aura fait que l'opération qui est en cours depuis maintenant plusieurs semaines, elle aura été vaine ?
Non, il n'aurait pas été vain, car il faut comprendre, tout d'abord, pour décrire un peu la situation au sud du Liban, le long de la frontière israélienne, il y a quelques 250 villages, dont plus de 160, c'est des villages chiites. C'est le fief de Hezbollah. Et je sais de quoi je parle. Les maisons là-bas, c'est pas ça a l'air, ça a une allure de maison, mais à l'intérieur, c'est une forteresse. Bien bâti, dans toutes les maisons, il y a des armes, des munitions, tout ce qu'il faut et leur faut pour attaquer. C'est un fief, c'est des bases de Hezbollah. S'il y a une chose qui ne peut pas arriver, c'est que ces habitants reviendront à leur village dans des conditions qui n'ont pas été définies et qui n'ont pas été maîtrisées par le gouvernement central libanais. Donc, dans ce cas, il faut dire que la plupart de ces villages sont pratiquement détruits. Et pour reconstruire tout ça, il faudra tout d'abord un accord entre Israël et le Liban. et avec l'intervention bien sûr internationale. Et à côté de ça, faire en sorte à ce que plus jamais il y a un réarmement de ces gens-là.
Ouais. Le premier ministre libanais Nawaf Salam a déclaré que l'armée allait commencer à déployer dans des zones pilotes qui seraient des zones exemptes de forces israéliennes et du Hezbollah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que représente une zone pilote et est-ce que vous y croyez?
Tout d'abord, il faut poser la question, est-ce que l'armée libanaise est capable de prendre la relève et maîtriser la situation? Sachant que 60% de l'armée libanaise est chiite, je vois mal comment les soldats chiites contraignent leurs frères chiites de Hezbollah. C'est un peu ça le grand drame de Liban. Il faut comprendre qu'on est au milieu d'une lutte interne libanaise entre, comme j'ai dit tout à l'heure, des traîtres libanais et les Libanais chrétiens, druzes et autres, et les autres civils chiites qui veulent vivre tranquillement, bien sûr. Okay? Et là, on est au milieu de tout ça. Est-ce que l'armée libanaise est capable de maintenir l'ordre là-bas sur place? C'est une grande question. Seuls, ils pourront jamais le faire.
Oui, bien sûr. Bah, justement, l'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait accorder une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée
Faire
libanaise.
quoi?
Justement,
Faire quoi avec l'argent?
c'était justement la question que j'allais vous poser. 100 millions, ça paraît très peu, quand même, dans un contexte de guerre.
Non, non, non. Même 2 milliards, ok? Et 3 milliards. Et pour faire quoi? Ça ne construit pas une armée. Il y a un changement de fond qu'ils doivent faire. Ils doivent être suivis par des unités internationales, européennes, américaines, n'importe qui. Pardon. Qui suit les unités libanaises, qui les entraîne, qui fait en sorte à ce que le complexe des soldats chiites par rapport à leurs frères ne surgit pas. C'est ça qu'ils vont faire. Autrement, jamais ça marchera. Voulant pas leur donner 100 millions, 200 millions, 3 milliards, ça ne changera rien du tout.
Est-ce que c'était pas justement le rôle de la finule, meilleur dent?
Ben, vous voulez que je vous raconte un peu que fait le FNIL là-bas sur place? Ça fait 50 ans qu'ils cherchent à s'abriter chez nous quand ils ont un problème. Ils ne sont pas actifs. Ils roulent là-bas sans regarder, parce que s'ils voient, ils doivent faire le rapport et ils le font. Ils l'ont jamais fait.
On le sait, les négociations avec l'Iran, enfin l'Iran, met en condition le fait que Israël arrête d'attaquer le Hezbollah dans le sud Liban. On n'est pas un peu dans un comment dire dans un trou qui n'aura pas de fin, meilleur d'un.
Alors ça c'est beau, vous voyez. Depuis des années, on dit que les Iraniens maîtrisent le Hezbollah, financent le Hezbollah, entraînent le Hezbollah et en fin de compte détient le Liban dans leur idéologie, dans leur stratégie. Et eux, ils ont nié tout le temps. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et voilà aujourd'hui. Un point de négociation vital entre les États-Unis et l'Iran, c'est la situation au Liban. Elle est belle, celle-là. C'est vraiment. Je me demande comment ils doivent sentir Aoun et Salem. Et ils doivent sentir très très mal qu'ils ont les Iraniens qui négocient pour eux.
Meilleur d'avant, je rappelle que vous êtes colonel de réserve de Tsahal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Merci, Blaise. À bientôt. Shabbat shalom.